Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on est fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées, bénévoles de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. En ce vendredi 4 octobre 2019, dans le cadre de cette matinale, nous reviendrons sur la catastrophe de Lubrizol, évidemment qui s'est passée il y a tout juste une semaine du côté de Rouen. Nous étions notamment en reportage du côté du conseil communautaire lundi dernier sur le site H2O à Rouen. Nous avons rencontré un certain nombre de citoyens qui étaient présents, qui manifestaient leur colère et leurs inquiétudes. On a récolté cette parole et on complétera également ce sujet avec un début de réponse apporté un peu plus tard dans la semaine à l'initiative notamment du bâtonnier rouennais, donc les avocats rouennais qui se regroupent pour prêter leurs services aux citoyens et la constitution d'une association de victimes dans le cadre de cette catastrophe de Lubrizol. On vous proposera donc pas mal de reportages à ce sujet ce matin. On écoutera vos messages répondeurs, des spots publicitaires, enfin en tout cas pour des événements qui ont lieu très prochainement. Je pense aux fêtes normandes qui ont lieu à Évreux ce samedi et ce dimanche. Et puis la fête de la science qui démarre la semaine prochaine. Et puis on retrouvera également l'ami Olivier, comme chaque vendredi, en fin d'émission, s'il arrive à venir jusqu'à nous. On va, sans plus attendre, commencer avec vos messages répondeurs et ces fameuses annonces d'événements. En tout cas, merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
Salut Principe Actif, c'est Simon de la brasserie coopérative Sport à Gravigny. Je t'appelle pour te dire que nous organisons un concert le vendredi 4 octobre, ce vendredi, à la brasserie Sport, c'est 13 rue de la Mairie à Gravigny. Donc c'est un concert de rock, 17 Minds, ça vient de Caen, et Golden Romeo, ça vient d'Évreux. Donc ce vendredi à Gravigny, à la brasserie Sport, à partir de 19h. Merci, salut.
La Normandie fait son cinéma à Évreux pour les fêtes normandes les 5 et 6 octobre. Découvrez tous les secrets du cinéma. Effets spéciaux, cascades, maquillage FX, Yamakasi, voiture star ou musique de film. Un hommage sera rendu à la Normandie, terre de cinéma, avec ses acteurs, ses films et ses festivals 100% normands. Les produits du terroir seront de la fête avec les recettes des talk chefs. Et comme chaque année, des jeux concours pour gagner des séjours touristiques. Les fêtes normandes, un événement gratuit à Évreux en centre-ville les 5 et 6 octobre de 10h à 19h. Programme sur evreux.fr.
La fête de la science 2019 vous invite du 10 au 13 octobre à venir découvrir les villages d'Évreux, d'Elbeuf et Saint-Étienne-du-Rouvray. Au programme, des démonstrations, des ateliers de manipulation, des expériences à réaliser, mais aussi des rencontres avec des chercheurs, des scientifiques, des conférences et des débats.
Pour les plus jeunes ou les plus anciens, rejoignez-nous dans les villages de la science d'Évreux, d'Elbeuf et de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Du 10 au 13 octobre.
Entrée gratuite.
Plus d'infos sur ecoscience-normandie.fr.
Et je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos réactions, vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos infos, vos annonces d'événements ou tout simplement nous faire des petits bisous, et on aime bien ça, sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Et pour cela, un seul numéro, le 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. On va repartir en musique et je vous fais la petite lecture du speech qui va avec le titre de musique qu'on va vous proposer dans l'instant. Il s'agit d'un morceau et d'un clip qui ont été réalisés par des collégiens du collège de Navarre à Évreux dans le cadre du concours Non au harcèlement. Le clip s'appelle Pas seulement des paroles. Ça a été réalisé avec évidemment donc des élèves, le soutien de leurs surveillants, leurs professeurs d'espagnol notamment. Le clip a été réalisé par le service jeunesse de la ville d'Évreux et enregistré au Cube, donc le Tangram, la salle des musiques actuelles hébroïciennes. Et ce projet a reçu le concours, le prix du concours, du coup de cœur de ce concours de la région Normandie. Donc on écoute ce morceau, pas seulement des paroles, des élèves du collège de Navarre à Évreux.
Pas seulement des paroles, pas seulement des mots, des balles qu'on se perd sans larmes. Ils sont moi qui rigole, partageant des photos, des messages, des coups de larmes.
T'inquiète pas, on est là.
Sur le chemin de l'école apparaissent les mots. Je ne peux retenir mes larmes. Ma vie a tourné au drame.
Ne baisse pas les bras.
Toi que l'on harcèle, ce son est pour toi. On a un message, donc vas-y, écoute ça. Un son, un conseil, ne pas baisser les bras. N'abandonne jamais, chaque jour est un combat.
Lève le poing, bats-toi, il te frappe, entraîne-toi. Je me suis battu, je n'ai pas perdu espoir. Quand je me levais, j'avais les idées noires. De retour au collège, acharnement dans les couloirs.
Chasse tes idées noires, ne reste pas dans ton coin. Y'a encore de l'espoir, relève-toi, on te soutient. Relève-toi, on te soutient.
Harceleur et scout, chat, imagine être à sa place. Se faire vider les poches, t'aimerais pas qu'on te le fasse. N'entends que des reproches, tu provoques de la casse. On dit stop au harcèlement, aujourd'hui c'est trop courant. Cesser ce comportement violent et insultant. Oui, ça pousse à l'isolement, ça devient urgent. Et ça devient urgent.
Pas seulement des paroles, pas seulement des mots. Des balles transpercent en larmes. Ils se moquent et rigolent, partageant des photos, des messages, des coups de larmes. Sur le chemin de l'école apparaissent les mots. Je ne peux retenir mes larmes. Ma vie a tourné au drame.
Voilà, pas seulement des paroles. Ce clip réalisé par des élèves du collège de Navarre à Évreux dans le cadre de, donc, de ce concours Non au harcèlement. Vous pouvez retrouver évidemment ce clip et ce morceau sur les plateformes qui vont bien. Le morceau s'appelle Pas seulement des paroles.
Le pire reste à venir tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
On va partir en reportage à l'occasion du conseil communautaire de l'agglo de Rouen qui avait lieu lundi dernier du côté du bâtiment H2O sur les quais de Seine, évidemment à Rouen. Manifestation et rassemblement citoyen pour évidemment manifester la colère, l'incompréhension, les inquiétudes et toutes les questions que soulève cette catastrophe Lubrizol.
Bah du coup, pourquoi vous êtes là ?
Bah pour montrer simplement bah, qu'on est là, qu'on a envie de réponse, pour voir aussi un peu l'ambiance, j'avoue, voir un peu les têtes qu'il va y avoir. Je suis un peu dans le milieu associatif et je voulais voir quelles associations allaient être présentes. Et pour avoir des réponses, je sais qu'on les aura peut-être pas forcément là devant le parvis de H2O, mais simplement pour nous montrer, c'est Rouen, c'est une ville, c'est des citoyens et bah voilà, on est là.
Bah, je suis venu soutenir la cause de l'air en fait, parce que moi je me suis rendu compte aussi que bah, c'était important et que tu vois les nausées, c'est surtout pour l'avenir de nos enfants en fait. Donc l'idée c'est de venir faire acte de présence et dire que exprimer le désaccord en fait, même si on sait très bien que la Terre elle est déjà dans un schéma de pollution, faut pas non plus en abuser. Donc l'idée c'est de réussir à mettre un mot, une présence, un truc au niveau de ce qui s'est passé sur les événements notamment à Rouen et tout ça, quoi.
Alors moi je suis là parce que je pense que, au regard de ce qui s'est passé, il faut que la société civile se positionne et exprime en tout cas son mécontentement et pour faire réagir à la fois les pouvoirs publics et puis les groupes comme Lubrizol.
Enfin, je pense que les sanctions qui doivent être mises en place lorsqu'il y a des accidents comme ça, elles doivent être mieux adaptées à ce type d'industriel.
Bah, en réalité, pour rejoindre des amis qui sont justement extérieurs à la ville, mais on est tous plus ou moins concernés par ce qui se passe, du coup, je les rejoins pour voir un peu comment on peut essayer d'enrayer la désinformation latente qu'il y a là-dedans. Quoi. Enfin, voilà.
Nous, on est riverains et on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé. Et puis on a aussi peur, on est angoissé, donc se retrouver, être ensemble, pouvoir discuter, c'est très important pour nous.
Ah, là, ça va gazer, là.
Ok, tout le monde est en train de rentrer dans le conseil communautaire. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vivez un peu les choses, là, les dernières heures, les derniers jours?
Je crois que j'y crois pas, en fait. On en rigole, enfin, je pense que c'est aussi un peu pour dédramatiser la situation, mais on ne sait pas trop, on est un peu dans une sorte de léthargie. Enfin, je ne sais pas si c'est les produits chimiques qu'il devait y avoir dans l'air ou juste l'effet que ça nous fait, je ne sais pas trop. Mais je suis abasourdie, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui s'est passé et aussi vu qu'on n'a pas forcément énormément de réponses, on sait pas.
C'est marrant, mais l'idée de quand tu sors de chez toi et que t'as mal à la tête et tu sais pas ce qui t'arrive, alors que t'es en pleine forme et que t'as fait tout pour avoir un rythme correct, quand tu sors de chez toi ça pue, ça dégage des odeurs nauséabondes. Je me dis qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Donc du coup moi je me sens pas forcément à l'aise parce que tu sais un mal de tête permanent, c'est sûr que ça saoule un peu. Là j'en ai encore un petit, mais bon. Voilà, l'idée c'est de moi je viens et puis j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien pour les jours futurs quoi. Et que ça s'amplifie pas. Et qu'on ait un besoin de réponse aussi. Donc je me sens un peu dans un doute. Appuyer, donc l'idée c'est de venir avoir les réponses qu'il faut.
Moi j'avoue que je suis assez angoissée et ouais, je les vis pas très bien et pour le présent, et je suis assez angoissée aussi pour l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aussi pour avoir de l'information et pour.
Moi je trouve qu'il y a de l'information sur ce qu'on doit faire et sur les substances qui sont retrouvées dans l'air, mais il n'y a pas suffisamment d'informations dans le sens où dans nos comportements au quotidien, on ne sait pas vraiment si on doit continuer comme d'habitude ou s'il faut prendre des précautions particulières.
De la gêne principalement, parce que c'est-à-dire, comment dire? Ouais, je suis résident de banlieue, du coup, banlieue nord vers Mont-Saint-Aignan, et le nuage, les espaces de vapeur d'émanation, ça a pas mal stocké là-bas plus longtemps qu'en centre-ville. Et on s'est pas mal rendu compte de l'impact que ça avait. Enfin, moi perso, j'avais la gorge qui sentait le plastique le lendemain en me levant. Enfin, c'était assez violent comme truc. Et à côté de ça, il y a une forme de minimisation incroyable des risques. Quand on nous parle de toxicité aiguë, en fait, on parle de mort. Donc, évidemment qu'on n'est pas mort, mais du coup, c'est juste une ritournelle linguistique pour essayer de nous enfumer encore plus la gueule. Donc, je trouve ça. Aberrant, quoi. Enfin, voilà.
On a beaucoup de doutes, notamment du faible, du peu d'informations, la sirène qui a sonné très tard. On se demande tous quels sont les plans d'évacuation et si jamais il fallait vraiment les mettre en place, à quel moment, quel est le degré qui décide qu'on met en route ces plans. Nos inquiétudes, elles viennent aussi du fait qu'on a des odeurs très présentes d'essence dans le quartier, hein, suivant les moments. Alors tout de suite, là... Tout de suite, ça sent pas, mais c'est très fréquent que ça sente encore. Hein. On a eu des nombreux résidus de substances étranges dans le jardin et sur le sol.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités, que ce soit le conseil communautaire là, qui se réunit ce soir, de la mairie de Rouen, de l'État, de la préfecture, voilà. Est-ce que vous attendez des choses et qu'est-ce que c'est?
J'attends une transparence dans les questions qu'on leur pose. J'attends un peu d'empathie. J'attends des réponses. Et une transparence, si eux connaissent des choses, nous aussi on doit les connaître. On est citoyens tout comme eux, et là on parle de santé, on parle d'enfants, on parle de personnes adultes, âgées, tout le monde est concerné, donc oui, on attend des réponses. Alors après je dis des réponses, mais on n'a pas forcément les questions, parce que c'est des choses qui peuvent nous dépasser. On va nous parler de produits chimiques, de produits toxiques, on va se renseigner sur 2-3 sites internet, mais on ne sait pas forcément tout ce que c'est, on n'a pas le bon vocabulaire, donc certes une transparence, mais quelque chose de simple aussi.
Des réponses claires et précises, avec justificatif de préférence, parce qu'ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, hein, mais quand on est sur le terrain et qu'on voit justement que ça va pas, l'idée c'est de vraiment avoir des vraies réponses précises, justifiées, qui nous expliquent. Sinon, c'est à nous de faire nos propres analyses. Mais bon, en même temps, on n'est pas tous des biologistes. Hein. Donc l'idée, c'est d'avoir des vraies réponses des autorités. Quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur problème, quoi?
Et est-ce que vous attendez quelque chose de Lubrizol, de l'usine, de...
Bien sûr. J'ai suivi pas mal les actualités, donc depuis que ça est arrivé jeudi matin. Enfin jeudi dans la nuit à 2h30 du mat, déjà qu'ils s'expriment. Je pense qu'ils ont dû avoir une clause de confidentialité, ils n'ont pas dû être autorisés à parler sur ce qui s'est passé, mais quand je vois qu'en 2013 Lubrizol a dû payer 4000 euros d'amende avec ces gaz qui se sont échappés, je trouve ça tout à fait aberrant. Donc là j'espère qu'ils vont répondre un peu de leurs actes, qu'on trouve déjà la cause, parce que ça reste aussi un peu flou. Le directeur de Lubrizol est resté très évasif là-dessus, il rejette même un peu la pierre sur d'autres personnes ou d'autres entités. Donc oui, j'attends aussi des réponses et qui ne serait-ce qu'ils s'expriment.
Moi j'attends du ministère de l'Environnement qui prennent les mesures adéquates pour faire en sorte que les industriels prennent mieux en compte les risques inhérents à leurs activités.
Bonjour, ça va ?
Ouais, pareil vis-à-vis de l'État, plus de, enfin, que la réglementation change si aujourd'hui elle n'est pas adaptée face à ces risques-là. Et plus de communication.
Si vous attendiez quelque chose de Lubrizol ?
J'attends qu'ils prennent. Il y a quand même eu 4 incidents depuis 2013, donc j'attends qu'ils prennent des mesures de sécurité beaucoup plus strictes pour que ces événements n'arrivent plus à l'avenir. Parce qu'on ne sait pas si dans 2 ans il y a un autre événement comme ça. Et c'est aussi ce que j'attends, donc doublement de cette sécurité, c'est qu'il y a d'autres usines Seveso à seuil haut qui sont à proximité. Et on a su après coup que ce qui s'est passé aurait pu être bien pire si le vent avait été un peu différent et qu'une autre usine à proximité avait elle aussi été atteinte par l'incendie. Donc je trouve que voilà, au regard de tous les risques qui sont sur cette zone, j'attends beaucoup plus de vigilance vis-à-vis de la sécurité.
Actuellement rien de quasiment rien parce que je reste lucide. Néanmoins, si je devais vivre dans une certaine forme d'utopie, je dirais que ce serait quelque chose du genre de déjà reconnaître ses erreurs. Son incapacité absolument latente et visible à ne pas avoir su traiter la chose dans les formes et dans les temps qui leur étaient impartis. Et voilà, quoi, essayer de faire en sorte qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises, par exemple le fait qu'il y ait des masques de protection qui soient gratuits et en masse dans les pharmacies, parce que là, elles étaient toutes en rupture de stock aujourd'hui. Qu'on essaie aussi d'avoir un vrai propos sur les conséquences à terme. Surtout par rapport aussi aux exploitants agricoles, enfin essayer d'avoir des vrais plans sociaux derrière pour que économiquement les petits exploitants se pètent pas la gueule vu qu'ils ont interdiction de vendre leurs produits, ce genre de choses. Enfin des solutions concrètes sur le long terme, puisque là on a pris les premiers effets visibles et olfactifs entre guillemets, mais le dur du dur, ça arrivera dans 6 mois quoi, c'est comme ça qu'agit la pollution en général. Voilà.
Et qu'est-ce que vous attendez de Lubrizol ?
Qu'ils acceptent que les prélèvements et les mesures qui soient effectuées sur leur site ne soient pas faits par eux, mais par des tiers impartiels.
Alors, premièrement, une transparence par rapport à ce qui s'est passé. Et deuxièmement, une transparence par rapport aux quels sont ces fameux plans d'évacuation. Si jamais il se passait quelque chose, on se questionne beaucoup. La prochaine fois, ce sera quand? La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on est mieux organisé? Est-ce qu'on tire les leçons de nos erreurs?
Et qu'est-ce que vous attendez de Lubrizol?
Oh, qui dégage, ça c'est clair et net, on n'en veut plus. Warren, dégage.
Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'usine?
Bah, on va dire que je m'étais jamais trop posé la question. Sauf que, bah voilà, là c'est en train de nous toucher. Déjà, c'est pas joli. Clairement, là, on est au pied du panorama XXL. On voit tout ce qui nous entoure. C'est pas forcément très joli. On voit ces grosses usines en plein centre-ville. On se dit que c'est pas forcément normal d'avoir ça dans une ville en plein centre. Après, vu que personnellement, je ne m'y intéressais pas forcément, je sais pas forcément ce qui s'y passe. Mais ça paraît pas normal. Et pour des choses comme ça, ça devrait être sécurisé à un point inimaginable. Et quand on voit qu'il y a un feu qui dépasse les immeubles, qui se réalise il y a 4 jours, c'est pas possible. Enfin, ça devrait être beaucoup plus sécurisé.
Et le fait que ce soit à proximité des habitations?
Ah bah, ça va avec. C'est... Après, j'ai pas forcément la réponse non plus, parce que si on met ça en pleine nature, bah, l'agriculture et compagnie, bah, ils en prennent un coup aussi. Et bah, comme on l'a vu, là, le nuage de fumée, bah, il se déplace. Donc, je sais plus combien de kilomètres il faisait, 34 ou 35 kilomètres sur 6 kilomètres de long. C'est pas. Voilà, ça peut pas être mis totalement à l'écart. Ça impactera forcément des gens. Donc après, entre le mettre en plein centre-ville et à la campagne, je sais pas. C'est, j'avoue, il n'y a pas de solution. Hein.
Bon, on le savait très bien que déjà au début, c'était pas une usine qui était en mode bénéfique pour la population et l'air de la population. Il y a déjà eu des incidents qui se sont faits en 2013, si je me trompe pas. Et bah là, en fait, ça fait un peu le coup balibré de l'usine, en fait. L'idée, c'est que bah, ces entreprises-là, elles ont au moins plus de 70 ans, je sais pas. Peut-être que je dis des bêtises, mais ils ont au moins plus de 70 ans d'existence. Et à un moment, si c'est pas entretenu, bah, ça brûle. Donc...
Et le fait que ce soit à proximité des habitations?
Bah, à proximité des habitations, c'est un risque que l'État a pris, de toute façon, en mettant des usines. Il le savait très bien. Hein. Il le savait très bien qu'en mettant des usines radioactives à côté des habitations, que ça pouvait créer des risques. Mais ils ont pris ce risque-là. Maintenant, il faut qu'ils en assument les conséquences.
En fait, c'est pas vraiment de ce genre d'usine. En fait, c'est de qu'est-ce qu'on pense de notre société qui est dépendante à ce genre de à la pétrochimie et à tout ça. Et c'est vrai qu'en discutant avec un collègue, je pense que c'est tout notre mode de société qui doit changer et qui ça demande une inertie telle que ça demande beaucoup. Voilà, ça demande beaucoup de temps et en attendant, voilà, elles doivent prendre conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'environnement et sur notre santé et prendre les mesures adéquates.
On est d'accord sur le fait que ce genre d'usines, elles sont nécessaires à la fois pour l'économie de la région et le fait que ce soit à proximité des habitations, ça a une logique dans le sens où les gens, pour aller travailler, ils n'ont pas besoin de faire plusieurs kilomètres en voiture. Après, il y a le côté risque envers les populations. Mais enfin, si on ne met pas l'usine là, on la met aussi sur des champs agricoles qui sont à côté. Donc il y a tellement de choses à prendre en compte que moi, je suis incapable de juger si c'est la mauvaise ou la bonne décision.
Je ne peux pas réellement répondre à la question parce que je ne la connais pas. Je ne me suis jamais intéressé réellement à Lubrizol avant aujourd'hui. Mais on va dire que si je devais avoir un propos sur ce genre d'usine, je dirais que c'est... clairement dégueulasse, que c'est impensable et je comprends pas comment en fait ils ont réussi à avoir les autorisations pour se fixer si proche du centre en tant que Céveso. Là, c'est quelque chose qui est récurrent en réalité. La plupart des sites Céveso sont très proches des zones habitables et en soi, quand ça pète, c'est toujours un problème. C'est-à-dire que soit si ça pète en campagne, ça contamine tout, soit ça pète en ville et il y a plus de gens impactés, mais ça contamine moins au niveau de la nature. Donc, chaque fois, il n'y a pas vraiment de bonne solution néanmoins. J'aimerais bien que ça soit quand même mieux contrôlé, qu'il n'y ait pas un laxisme latent face à ça. Quoi. On sait que c'était une usine qui était insalubre. Donc déjà, qu'ils essaient de se contrôler eux-mêmes et qu'ils acceptent que des tiers, que ce soit le régalien ou autre, prennent leurs responsabilités. Quitte à ce qu'il y ait des risques pris, comment ils essaient d'en avoir conscience et qu'ils minorent les choses. Pas comme ils le font.
Justement, vous en pensez quoi de ce genre d'usine?
Oh bah, c'est le reflet de tout ce qu'on déteste dans cette société. Hein. C'est tout simplement le reflet de ce monde capitaliste de merde.
Et le fait que ce soit à proximité des habitations?
Une fois de plus, c'est-à-dire que nous, en tant que Rouennais, on se positionne clairement en tant que asservi par rapport à Paris. Hein, c'est-à-dire que nous, à Rouen, on considère qu'on est un peu les sacrifiés pour, pour la production parisienne. On a une idée. Et on est aussi là, comme on se retrouve, voilà, il y a d'autres choses qui ressortent, d'autres choses qui nous réunissent.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des pouvoirs publics, des médias, de Lubrizol? On en a un petit peu parlé, mais voilà, peut-être plus sur l'aspect médiatique, le traitement médiatique, un regard là-dessus?
Bah c'est un peu à cause de ça que je suis venue aujourd'hui. C'est parce que pour nous, ils n'ont pas du tout été transparents. On s'est retrouvés chez des amis à 18h le jeudi où une odeur pestilentielle est apparue dans l'air. On a appelé la cellule de crise mise en place par la préfecture. On leur a demandé clairement ce que c'était. On avait eu une information comme quoi c'était du mercaptan, donc la même odeur qu'il y avait eu en 2013. Cette cellule de crise n'a pas voulu nous le confirmer, sauf qu'au bout de 10 minutes, elle nous l'a confirmé. Sauf que ça n'a jamais été dit par les médias. Lors de l'allocution du préfet à 18h, il a à peine fait référence de ce qu'il y avait eu en 2013, disant que peut-être qu'on sentira les mêmes odeurs, mais sans dire exactement ce que c'est, sans dire que ça peut être nocif pour nous, pour l'environnement. Quand je tape mercaptan sur Internet, ça dit gaz extrêmement toxique. Donc c'est pas du tout rassurant. Donc j'attends qu'on nous dise simplement la vérité et qu'on nous explique ce qui nous attend dans les jours à venir, dans les mois à venir et les années.
Déjà moi je regarde pas forcément beaucoup la télé. Après ce que j'en entends, ce que j'en vois, c'est que ils ont préféré faire l'apologie de la mort de Chirac plus que l'apologie de ce qui se passe ici, quoi. Donc c'est pas cool, ça saoule. Donc l'idée, c'est qu'ils arrêtent de faire semblant, tout comme les idées de violence policière, et qu'ils nous disent « Non, il n'y a pas eu de violence policière au niveau des gilets jaunes, on sait très bien qu'il y en a. » Là, ils nous disent que l'air, il n'est pas pollué. Il y a un moment, on se demande s'il faut les croire. Tu vois, donc l'idée, c'est d'avoir des vraies réponses, en fait. C'est vraiment ce qu'on attend. Et des réactions aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des préconisations, des choses. Surtout pour nos gosses. Moi, je viens aussi pour mes enfants et leur dire qu'on n'est pas tout seul ici.
Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des médias dans la couverture de l'événement?
Je pense qu'il y a du monde à Lubrizol.
Ah, wow.
On a fait diversion ici, ils sont là-bas.
Moi, je trouve que ça est...
C'est sûr.
Ouais, l'événement a complètement été effacé, enfin pas complètement, mais en tout cas en partie été effacé par un autre événement national qui est la mort d'ancien président. Je trouve que le traitement aurait été préférable que le traitement soit un peu plus réparti au regard des conséquences et du nombre de personnes touchées par le premier incident et moins par le deuxième, même si il ne faut pas occulter la mort de Jacques Chirac, mais en tout cas je trouve que le traitement aurait pu être plus judicieux.
Ça se comprend de parler de la mort d'un ancien président aux actualités nationales, mais bon, après c'est le moment d'en parler justement maintenant qu'on peut, quoi, et de rebondir là-dessus et de tirer les conclusions de cette expérience.
Très honnêtement, j'ai pas la télé chez moi, j'écoute pas la radio vraiment, donc je suis plus média alternatif, donc je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus parce que pour l'instant c'est encore assez balbutiant. Je pense qu'il faut pas se précipiter sur la débauche d'informations, parce que la plupart du temps elles sont fausses quand elles sont trop rapides, donc j'ai pas d'avis là-dessus.
Et sur l'attitude des autorités de Lubrizol, on en a un petit peu parlé, mais voilà, vous pensez qu'ils se sont comportés comment?
À mon sens, ils étaient à l'image de leur dernier problème, quoi, quand ils ont pris l'équivalent de, je crois que c'était 3-4 000 euros d'amende pour justement un problème dans leur usine. Il y a une certaine forme de laxisme incroyable, de détachement face au réel qui est de l'ordre de l'indécent, quoi. Enfin, c'est, je veux dire, quand on remonte la chaîne de ce genre d'usine, tu te rends compte que c'est des Warren Buffett, c'est des connards dans le style qui tiennent ça. Et ils ont complètement les moyens de pallier au problème interne, faire en sorte que ce ne soit plus insalubre. Ils ont les moyens de délocaliser ces entreprises en dehors, non pas du territoire, mais juste de zones habitées. Ils ne le font pas. Tout ce qui aurait pu être pareil, le simple fait que le gouvernement ait autorisé qu'il y ait plus de stockage chez Lubrizol et que ça ait pété 3-4 mois plus tard, merde quoi, enfin je sais pas. C'est...
Vous pensez quoi de l'attitude des pouvoirs publics, des médias, de Lubrizol dans toute cette histoire? Comment ça a été géré?
Alors par rapport aux pouvoirs publics, nous on pense qu'ils ont fait le strict minimum, notamment au niveau de l'information, à quel moment ils ont fait l'information. Il y a quand même eu l'incident, il y a eu à 2h30, les sirènes ont retenti seulement à 8h du matin et dans une partie très petite de l'agglomération. Quasiment tous les gens qu'on interroge n'ont pas entendu. Hein. Et par rapport aux médias, voilà, une fois de plus, le reflet de cette société de l'instantané. Hein. C'est-à-dire que Jacques Chirac nous aura fait chier jusqu'au bout.
Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau?
C'est ce que je me demande, déjà être là. Ça, c'est une première réponse. Là, j'ai entendu parler de plusieurs personnes qui comptaient porter plainte, donc soit collectivement, soit individuellement. Mais après, contre qui? Parce que, imaginons que ce soit une erreur humaine, la pauvre personne, je sais pas, c'est un peu bête aussi. Contre l'entreprise, si c'est pour repayer 4000 euros d'amende, ça va servir à rien. Si c'est contre l'État, aussi, qu'est-ce qu'il en peut, entre guillemets? Enfin, je sais pas. Donc, porter plainte, pourquoi pas, mais il faut que ce soit fait intelligemment pour qu'il y ait un réel impact derrière. C'était quoi la question?
Ce qu'on pouvait faire à notre niveau?
Ouais.
Et peut-être comment, à votre avis, on peut faire en sorte d'éviter que ça se reproduise? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Là, j'ai pas d'idée, j'ai pas de réponse. Beaucoup plus de sécurité. Sécurité, ouais. Arrêter de manipuler autant de produits toxiques, mais bon, après. Voilà, on est dans une grosse société de consommation, on a besoin de ces produits, on a besoin de ces entreprises, malgré tout, malheureusement. Donc ça va être difficile de s'en passer, j'ai l'impression.
À moins de changer de système et de société?
Vous essayez de me faire dire quelque chose.
Ça n'engage à rien. Hein.
Oui, peut-être, mais du coup, je ne saurais même pas par où commencer.
Je sais pas. Moi, je pense qu'on peut interpeller les pouvoirs publics comme on le fait ce soir, et je pense qu'on peut aussi se regrouper pour porter plainte contre Lubrizol afin qu'ils prennent en charge pas qu'une une amende de 4000 euros comme en 2013, mais qu'ils prennent en charge vraiment les impacts réels. Sur le territoire, notamment on a appris qu'ils allaient financer l'enquête sanitaire et environnementale. Je pense que c'est au moins ce qui
le minimum normal, syndical.
C'est normal, c'est le minimum syndical, exactement.
Je me permets de
merci. J'avais sur le bout de la langue, mais c'est ça, c'est le minimum syndical. Avoir que les pouvoirs publics mettent en place des mesures financières, si c'est que par là que le bas blesse, des mesures financières plus dissuasives vis-à-vis de ces usines pour qu'elles mettent elles-mêmes en place des mesures de sécurité plus fermes.
Déjà, on est là. Donc, être présent, déjà. Porter le mot auprès de tout notre entourage. Passer le message, de dire qu'on a besoin de présence, quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est la manifestation qui prône, hein. C'est quand même les droits de l'homme, les droits français aussi, on a le droit de manifester, on a le droit d'exprimer notre désaccord. Donc l'idée c'est de passer le message et de dire qu'on n'est pas d'accord avec une simple présence.
Comment on peut éviter que ça se reproduise, ce genre de choses?
Ça faut demander aux biologistes. Moi personnellement j'ai pas la solution.
Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau?
Faire entendre suffisamment notre voix pour que ça change et essayer aussi d'être plus actif en tant que citoyen au jour le jour, engagé justement dans ces causes environnementales, tout. Essayer de se battre le plus possible contre l'hégémonie des multinationales. Essayer de manger local, de boire local, d'être le plus à notre niveau et à notre échelle plutôt que d'essayer de dépendre de ce qui n'est pas chez nous et ce qui ne vient pas de chez nous. C'est con, mais juste arrêter ça, quoi. Voilà.
Et comment on peut faire pour éviter que ce genre d'accident ou d'événement se reproduise à l'avenir?
Je sais pas dire, je pourrais pas dire, je suis pas spécialiste de ça. Honnêtement, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau?
S'informer, se rassembler, combattre, essayer d'être malin et de comprendre ce qui se passe vraiment. Essayer de vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre quels sont nos ennemis et d'arrêter de croire qu'en faisant des petites luttes à droite à gauche, ça fonctionnera. Seule la convergence. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas les gens qu'on voit d'habitude dans ces types de regroupements. Hein. Voilà, si on devait avoir un petit espoir, il est malheureusement faible, ce serait ça, les espèces de prises de conscience de cette prise globale du problème.
Comment on peut éviter que ça se reproduise, ce genre de choses?
complètement repenser notre mode de consommation, parce qu'il ne faut pas oublier que si ces usines sont là, c'est pour beaucoup de raisons, mais notamment par rapport à comment est organisée notre société avec ses modes de production, la surconsommation. Je pense qu'il y a une première question à se poser à ce niveau-là. Hein.
Dernière chose, comment vous voyez la suite, l'avenir, voilà, quelle suite à donner ?
Par rapport à Lubrizol ?
Par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, avec cet incendie, cette usine, cette réunion aussi, enfin ce rassemblement ici à H2O. Quelle suite, comment vous voyez la suite ?
C'est un peu à nous de la dessiner. Je vais me rassembler... Je vais voir avec plusieurs associations ce qui est possible de faire, parce que pour moi, le commun aura beaucoup plus d'impact que l'individualisme. Donc la suite, c'est se rassembler, monter des actions, demander des réponses, clairement, et j'attends de la part des autorités, des pouvoirs publics, des réponses. Et un suivi, et que ça tombe pas dans... Pas l'anonymat, mais que ça tombe pas dans... Qu'on n'en parle plus dans pas longtemps, quoi, ce qui est déjà le cas.
Pas terriblement bien, donc voilà, moi j'essaie de faire en sorte de que tout se passe bien dans notre entourage, déjà dans un premier temps, pour le futur, pour protéger nos proches, nos familles, et moi je dis qu'il n'y a rien qui vaille, surtout si on veut faire des parallèles avec d'autres usines qui ont déjà explosé auparavant dans d'autres pays. Je sais pas si c'est dommage que ça tombe maintenant dans ce siècle présent, alors que la technologie est super évoluée et qu'ils peuvent réussir à en faire quelque chose de bien. Donc qu'ils se concentrent un petit peu là-dessus.
L'enquête sanitaire et environnementale, et puis avoir des communications envers le grand public.
Et puis toutes les mesures d'indemnisation. Là, on pense surtout au secteur agricole qui est fortement touché. Il y a le lait qui va plus pouvoir être vendu, les récoltes qui vont être détruites. Mais aussi vis-à-vis de certains particuliers qui, les aider au nettoyage de leurs habitations, notamment.
Dernière chose, comment vous voyez la suite ? Quelle suite à donner ? Comment vous voyez l'avenir ?
Dans le même style, mais en pire.
Nous, on espère qu'il va se passer quelque chose, là. C'est trop grave, c'est trop grave. Nous, à notre niveau, on fera tout notre possible. On lâchera pas l'affaire. Il faut s'organiser, là. C'est plus possible.
Ouvrir le gaz, allez, miser, admirer la défenestration. Ce morceau du groupe rouennais, groupe Fantôme, avec le titre Respire, résonne d'une façon toute particulière au regard des événements récents.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non ?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors ? Sans
ça va
être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
FDR à Rouen.
Oui, ça, bah merci de toutes ces précisions.
FDR, principe actif.
Que vous dire ce soir, à part qu'on est face à une catastrophe majeure, mon point de vue marque un avant et un après, s'agissant des risques environnementaux. Compte tenu de l'atmosphère qui est très anxiogène et des dommages que l'on suppute, l'ordre des avocats de Rouen s'est rapidement mis en ordre de bataille. Ça a été voulu notamment par un certain nombre de collectifs qui sont sur les réseaux sociaux. Je parle du collectif Lubrizol, mais ce n'est pas le seul, évidemment, il y en a plein d'autres. Et ça vient évidemment de la demande des simples particuliers, des commerçants, des agriculteurs, j'ai vu les apiculteurs, qui sont très en demande, évidemment, parce qu'on est un peu stupéfait par rapport à cette catastrophe. L'ordre des avocats donc, s'est mis en ordre de marche. Il y a eu une réunion ouverte aux avocats rouennais. Qui a eu lieu à l'ordre des avocats, donc c'était lundi 30. Lors de cette discussion ouverte, ont été mises un certain nombre d'hypothèses, avec la nécessité de la conservation des preuves, de lister les victimes, les dommages, et d'envisager un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, qu'elles soient civiles, mais surtout pénales, parce que c'est un petit peu là qu'on va chercher la responsabilité de l'exploitant, à savoir la voie pénale. Concrètement, ça veut dire que l'ordre des avocats Barreau de Rouen a mis en place une permanence qui sera effective dès demain matin, où chaque citoyen de la métropole rouennaise, mais j'ai envie de dire pas que, puisque je discutais tout à l'heure avec des élus d'un certain nombre de plateaux qui sont un peu plus lointains que la métropole, mais tout individu de la métropole ou un peu plus loin, venant d'un peu plus loin, pourra saisir un avocat et en tout cas consulter un avocat à la maison de l'avocat, donc l'espace Eugène Delacroix, à côté du palais de justice à Rouen, à compter de demain matin. Cette permanence, elle est mise en place sans limitation de durée, à ma connaissance. Là, j'avance un petit peu, parce que le bâtonnier de l'ordre va communiquer hein, sur ces éléments, même si vous avez eu connaissance d'un certain nombre d'articles, hein, c'est déjà public. Cette consultation, qui est évidemment gratuite, les gens pourront se faire connaître. Ils pourront bénéficier d'un certain nombre de conseils pour leur préservation de leurs droits. Alors évidemment, là, on est sur les constats, on est sur la préservation des preuves, des analyses, des prélèvements, et sur peut-être déjà envisager un certain nombre de dépôts de plaintes. Actuellement, on travaille sur des délits qui tournent autour des notions d'empoisonnement, d'atteinte à l'environnement et de violation manifeste d'obligations de sécurité. Voilà en l'état ce que je peux dire. Peut-être, je n'ai pas de conseils à donner, mais peut-être des recommandations, parce qu'il y a un climat de défiance et qui est, je le disais, un propos introductif qui est très anxiogène. Des gens qui ont peut-être un premier réflexe de faire vite, voire trop vite. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que on a pris la comparaison lundi midi de la catastrophe AZF. Qui n'est toujours pas définitivement jugé à ce jour. Hein. Donc il va falloir prendre compte que, comment le contentieux n'est pas terminé, pas définitivement terminé en tout cas, on est sur du temps long, donc il y a un impératif de préservation de preuves dès maintenant, et il y a aussi l'action judiciaire qui sera sur du temps long. Donc vraiment, que les gens ne se précipitent pas, l'ordre des avocats au barreau de Rouen est l'interlocuteur naturel hein, des gens qui veulent... défendre leurs droits. Il y aura des avocats spécialement formés avec une obligation de formation renforcée qui se tiendront à la disposition des populations, qu'elles soient de la métropole ou un peu plus lointaines. Donc vous pouvez joindre l'ordre des avocats tous les jours sur le site de l'ordre, par téléphone, il y a une permanence qui est assurée. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps.
Le mercredi 2 octobre avait lieu à la salle Ostermeyer à côté de la préfecture de Rouen une réunion à l'initiative de citoyens avec notamment étaient présents des avocats et le cabinet d'avocats Seattle, plutôt spécialisé dans les questions environnementales et sanitaires, dans le but d'informer les citoyens présents et avec en perspective la constitution d'une association de victimes suite à la catastrophe du Lubrizol.
Lubrizol qui a eu lieu la semaine passée. Je suis avec un des organisateurs de cette réunion. Voilà, pourquoi se constituer en association de victimes et comment ça va se dérouler? Une question voilà, qui est simple, on va dire.
En fait, bon, là, ce que nous ont dit les avocats, c'est qu'en matière de droit, on doit juridiquement se constituer en association de victimes pour pouvoir déposer une plainte collective. Donc nous, là, l'initiative, c'est de créer cette association ouverte à toutes et tous, dans laquelle on souhaite aussi que soient présents des personnes expertes, ingénieurs, avocats, médecins, etc., pour aussi appuyer tout ça et qu'on ait de la substance. Donc de déposer là pour l'instant une première chose sur la réparation environnementale.
Donc il y a la constitution de cette association là, donc il faudra déposer les statuts en préfecture, ça va être rapide. Il y aura un compte rendu de cette réunion qui sera diffusé par quel canal d'ailleurs?
Alors pour l'instant, donc là on est en création d'une adresse mail. Là actuellement sur le Facebook, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Lubrizol. Donc on diffusera le compte-rendu de cette réunion sur ce collectif-là et on mettra l'adresse mail et donc il sera possible donc de pouvoir envoyer un mail pour rejoindre l'association et on fera bien entendu une assemblée générale constituante de l'association de victimes pour engager ensuite la suite des procédures.
Un des éléments importants qui a été abordé lors de cette réunion, c'est la constitution d'un protocole entre guillemets scientifique pour pouvoir recueillir les preuves de la catastrophe, puisque là, depuis que la catastrophe a eu lieu, il a plu, le temps est en train de changer, et donc les preuves disparaissent petit à petit. Donc c'est notamment pour ça que vous appelez aussi à des personnes dites expertes, des scientifiques, des chimistes, des ingénieurs à pouvoir vous rejoindre, c'est bien cela?
Oui, c'est ça. Là, en fait, dans un premier temps, donc là, tout individu qui a des preuves qui peuvent augmenter aussi le dépôt de plainte, l'idéal, c'est qu'il y ait un huissier, un expert qui puisse faire valider ça parce que ça, ce n'est pas contestable. Ce sont des choses qui coûtent de l'argent. Donc aussi, peut-être récolter ces preuves avec des gants, les mettre dans un bocal en verre, dans un sachet, au congélateur pour après faire des expertises. Mais donc ce que nous rappelaient les avocats, c'est qu'il faut qu'il y ait des témoins qui soient présents, que s'il y a une photo, elle doit être géolocalisée avec la date et l'heure pour que ces preuves puissent vraiment être utilisées juridiquement.
En conclusion, si on se pense victime de cette catastrophe, on se rapproche de vous dans un premier temps sur le Facebook collectif Lubrizol et sur ce Facebook sera partagée une adresse mail pour pouvoir rentrer en contact avec vous et pouvoir intégrer cette association prochainement.
Oui, et il y a aussi, donc ça c'est une chose, et il y a aussi donc les avocats de Rouen qui tiennent une permanence juridique à partir de demain matin, enfin de vendredi matin, de 8h30 à 13h à la maison des avocats à Rouen.
Et à donc, côté du palais de justice de Rouen.
C'est ça. Et donc là, il y en aura une, il y en aura aussi la semaine prochaine jusque mercredi et après d'autres dates. Et ça se voit, les dates et tout, sur le site des avocats, de la maison des avocats du barreau de Rouen.
J'imagine qu'il faudra, dans un premier temps, prendre rendez-vous avec eux parce qu'ils ne pourront pas recevoir tout le monde en même temps. Évidemment, ça semble assez ingérable.
C'est ça, parce qu'il y a plusieurs plaintes là qui sont déposées. Donc il y a des gens qui déposent des plaintes individuelles. Il y a des agriculteurs qui déposent des plaintes, des éleveurs. Il y a des associations comme Respire qui déposent des plaintes. La CGT est en travail là sur aussi un dépôt de plainte. Donc là, toutes ces plaintes sont complémentaires. Et donc là, les avocats voient comment coordonner tout ça sur le réseau entre Paris et Rouen pour qu'il y ait vraiment une coordination des plaintes et que ça fasse poids.
J'ajoute en conclusion de ce reportage que si vous voulez vous rapprocher de cette association de victimes qui est en train de se constituer, vous pouvez contacter les personnes à l'initiative à l'adresse mail suivante, Lubrizol avec un Z, pour rappel, Lubrizol plus jamais ça, tout attaché, le C de ça sans cédille évidemment, donc Lubrizol plus jamais ça, @protonmail.com et tout bonnement aussi vous rapprocher du Facebook collectif Lubrizol. On repart en musique avant de retrouver notre ami Olivier comme chaque vendredi.
Voilà, les Auvergnats du groupe Gurdy, pardon, je vais y arriver, qui rencontrent la quintessence du North Mississippi Hill Country Blues, notamment Cedric Burnside, voilà, qu'on avait pu voir au 106 il y a quelques mois.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans ça être...
Oui. Mon principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Et oui, c'est bien nous, et comme chaque vendredi, nous retrouvons un peu de légèreté avec le marronnier de l'ami Olivier. Camarade, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour Tim, et bonjour tous les mondes au-delà des ondes. Tim n'a pas pensé au pain au chocolat, et moi je fais la gueule, alors qu'aujourd'hui, vendredi 4 octobre, c'est la journée mondiale du sourire. Une journée à offrir à ceux que vous croisez. Cette expression faciale pleine de sympathie, bienveillance, plaisir et bonne humeur, une petite grimace qui apporte chaleur et sérénité à votre prochain sans rien débourser. Celui qui n'a peut-être pas toujours souri, c'est Harvey Ball. C'est lui qui a lancé cette journée en 1999, 2 ans avant sa mort. Hervé Ball, c'est l'inventeur du smiley. Il a dessiné ce visage jaune et souriant en 1963. Il n'a pas jugé utile de le déposer et la célèbre icône est rentrée dans le domaine public. En 1972, c'est un Français qui reprend le dessin, Franck Loufrani, un Français qui pompe une idée lucrative au grand pays du capitalisme, c'est cocasse. Mais lui pense à déposer le concept. C'était avant Reagan. L'image se répand sur les t-shirts et les badges. C'est la fortune, une fortune à faire passer l'euro million pour un jeu de bonneteau de boulevard. La Smiley World, sa compagnie, est un des premiers modèles de start-up. La chance sourit aux plagieurs, c'est quand même le comble pour un Américain de se faire pomper une idée rentable par un Européen. Le pays du pays vert n'est déjà plus ce qu'il annonce. On pourrait faire de ce petit dessin le symbole de l'ironie capitaliste, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Souvenez-vous, avec les Minitel et les Nokia 3310, on reproduisait le sourire jaune avec 2 points et une parenthèse. Avec 1 point-virgule, on marquait une complicité, une connivence. Nicolas, le fils de Franklin, a l'idée de rendre graphique le symbole, l'émoticône nez. Et tous les opérateurs, tous les systèmes d'exploitation proposent de traduire nos émotions avec un simple clic. Et c'est là l'avenir du sourire. C'est là que nous célébrons cette journée. Ne surtout pas prendre le risque de rentrer en contact avec les gens en réel en grimaçant bêtement. Nous ne sommes pas bêtes, après tout. Aujourd'hui, on va cliquer sur l'émoticône. Sur Facebook, sur Twitter, dans nos SMS, on va faire péter les serveurs à monter d'un degré le réchauffement de la planète. Parce que cliquer sur le smiley a un impact sur notre bilan carbone. Il en faut de l'énergie pour faire fonctionner le bousin virtuel. La journée du sourire, ça devrait être la journée du transhumanisme. Lorsque nous sommes penchés sur nos écrans, au bureau, dans le train, dans la salle d'attente, refusant de croiser le regard de nos collègues, de nos voisins, sommes-nous plus proches de l'humain souriant ou de la machine? Qui sourit à qui? Deux correspondants qui ne se verront pas de la journée ou deux outils technologiques connectés? Et lorsque l'émoticône que nous voyons apparaître sur nos écrans est envoyé par une intelligence artificielle, un bout de programmé pour être sympa, comme certains savent le faire, a-t-il la même valeur que lorsqu'il est cliqué par un humain sur une page internet? Sommes-nous obligés d'y répondre, ne serait-ce que par politesse? En Corée, une étude vient de paraître sur les bienfaits des boîtiers connectés. Ils rendraient les personnes âgées plus heureuses. Ils briseraient leur solitude en entretenant des discussions en langage soutenu et poli. C'est beau le progrès. Plus la peine d'aller rendre visite à mamie, la Echo ou Siri, enfin Aria, c'est le nom de la boîte en question. De toute façon, lorsqu'on y va, personne ne sourit. Hein. Mamie, elle raconte des douleurs d'arthrose et les effets indésirables de son traitement contre la phlébite. Et puis elle se répète, mamie. Elle ne se souvient pas toujours du début de la conversation, ou alors elle n'est pas sûre de pouvoir nous avoir convaincus sur l'importance de garder les vignettes fidélité de supermarché pour avoir droit à une machine à pain ou à un service à raclette à Noël. Alors causer et sourire à une machine, c'est plus simple. Et puis avec ses dents en céramique et sa hanche en plastique, c'est déjà un peu une cyborg, mamie. Une humaine améliorée pour son âge. Alors rompre l'isolement avec une enceinte Bluetooth, ça paraît presque normal. Presque, hein, parce que franchement, la socialisation à coup d'algorithmes binaires, je ne sais pas si c'est la beauté du progrès. J'ai plus l'impression que c'est le champ du cygne de notre humanité. L'humanité, vous savez, ce truc qui nous pousse à exprimer nos émotions et nous rapprocher de nos congénères pour gagner un peu de chaleur. Alors aujourd'hui, en cette journée mondiale de sourire, pourquoi ne pas grimacer un peu de bonheur chez mamie? Peut-être bien qu'avec un sourire, elle rencontrera autre chose que son bilan sanguin, qui sait? Allez, gros. Gros smiley à tous. Les mondes au-delà des mondes. Si nous n'étions pas à la radio, je vous ferais un cœur avec les doigts.
Moi, je vais vous faire un câlin, ami Olivier. Ça fait plaisir.
Ouais, j'en ai que câlin. C'est...
ah, c'était l'autre coup, ouais. C'est vrai. Bah, je vous fais un sourire, au minimum. Un petit jingle pour marquer cette marque d'amour et d'affection que je vous porte à vous en particulier, camarade Olivier, mais à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Hey, quelques bons plans comme ça pour aller faire des câlins à vos semblables et des sourires tout le week-end un peu partout dans notre belle région. Évidemment, on vous rappelle qu'il y a les journées normandes. Ça se passe à Évreux ce samedi et ce dimanche. Nous y serons avec la radio Principactif pour vous faire vivre l'événement. On sera également au pop-up party le soir à Louviers, à la Gare aux Musiques, avec pas moins de 6 groupes et formations en concert ce soir et demain soir, donc à Louviers, à la Gare aux Musiques. Il y a également les rendez-vous avec le numérique, c'est proposé par la CAF et ça se passe au Cadran à Évreux ce samedi 5 octobre toute la journée. Voilà pour aller peut-être parfaire vos techniques numériques, si je puis dire. Et puis du côté du sud du département de l'Eure et notamment à Verneuil, Davre et Diton, il y a le festival Les Automnales. Ça se passe ce 4, 5 et 6 octobre avec le concert de la formation de la famille Agnel qu'on avait déjà reçu à nos micros il y a quelques mois, la compagnie théâtre Ozen et puis le concert de Ben Herbert Larue. Donc 4, 5 octobre et 6 octobre, pardon, festival Les Automnales à Verneuil, Davre et Diton. Ça, c'était les petites choses que j'avais sous les yeux. Il y a également à Rouen un Armor of Gore ce soir. Ça se passe à la Caverne de Thor à partir de 22h. Comme chaque premier vendredi du mois, il y a le rassemblement des coquelicots devant les hôtels de ville de vos communes. Celui qui est prévu à Rouen, place du Général de Gaulle, à partir de 18h30 aura une résonance toute particulière au vu des événements récents. Inauguration de la graine, ça se passe à la MJC Rouen Rive Gauche ce soir à partir de 19h. Et puis on avait reçu un message téléphonique pour en parler, l'Aérolab à la Brasserie Sport à la sortie d'Evreux du côté de Gravigny avec notamment en concert les Golden Romeo. Évidemment tout un tas de choses que j'aurais pu avoir le temps de vous annoncer mais que je n'ai pas le temps, donc rendez-vous sur les messages répondeurs au 02 32 62 57 32 pour nous passer de l'info et qu'on la diffuse. Dans un instant sur l'antenne de Principe Actif, vous avez rendez-vous avec le flash RFI Monde et pour connaître nos programmes, rendez-vous sur nos sites internet respectifs, principactif.net, radiohdr.net. Je vous retrouve lundi, monsieur Olivier. Ciao.
Qu'est-ce qui parle vite ?